la dispute. Ce soir, la littérature.
Cette émission est préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. La prise de son est assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Daniel Finot. Je salue ce soir autour de moi Elisabeth Philippe, Jean-Christophe Brianchon et Laurent Nunez, avec à notre programme trois romans de la rentrée de janvier, Microfiction 2018 de Régis Geoffrey, L'oubli de Philippe Forest et Écoute la ville tombée de Kate Tempest. Boris Pino est également avec nous pour nous lire vos commentaires, des commentaires que vous pouvez laisser sur Facebook ou sur Twitter. Et toujours un cadeau à la fin, puisqu'on retrouvera à la fin de l'émission le jeu de la dispute ce soir à gagner, des invitations pour Saïgon, un spectacle de Caroline Gayla Nguyen, mardi 16 janvier à 19h30 à l'Odéon, Atelier Berthier à Paris. Et nous commençons avec une suite, puisque Régis Geoffrey a récidivé avec ses micro-fictions. Le premier tome, entre guillemets, avait remporté en 2007 le prix France Culture Télérama. C'est donc un deuxième volume qui paraît en cette rentrée chez Gallimard, avec toujours le même principe. Une série de 500 récits mordants qui ont tous le même format, une page et demie environ, avec une quasi-constante, la première personne du singulier, et puis des motifs récurrents, la monstrueuse vie de famille, l'horreur conjugale, la perte d'enfants, toujours dans un esprit de cruauté et d'humour noir. On va avoir encore plus peur avec cette musique choisie par Daniel Finot. Alors c'est un pavé, ça je crois qu'on peut le dire, hein, 1000 pages. On va voir si vos camarades vous remercient, Laurent Nunez.
Oui, parce que c'est moi qui l'ai proposé là, j'avoue que c'était assez costaud. Vous savez, normalement c'est risqué. Moi je trouve toujours risqué quand quelqu'un décide après un carton comme Microfiction en 2007, il y a 11 ans déjà, de donner une deuxième salve. Je craignais le pire. Fort heureusement, avec Régis Geoffrey, autant j'aimais peu ses livres très ancrés sur le réel, sur les perversions, autant je suis vraiment subjugué par ce qu'il propose là, par Microfiction. En effet, vous l'avez dit, c'est très intéressant parce que vous savez, c'est un mélange. Geoffrey, c'est un écrivain qui arrive à mélanger à la fois Balzac et Borges. Balzac, parce que le propre de Balzac, c'est de vouloir concurrencer l'état civil. Et c'est ce qu'il fait complètement pour le deuxième tome, même si dans la comédie humaine, les personnages revenaient, ils étaient récurrents. Ici, justement, c'est encore un autre tour de force. Les personnages ne semblent pas revenir. Peut-être que si, mais j'avoue que ma connaissance de l'œuvre des 1000 pages n'est pas suffisante pour d'un coup apercevoir des ombres revenir ou quoi. Donc ça, c'est hyper, extrêmement intéressant, cette capacité qu'il a à vouloir embrasser l'humanité complète, totale, comme si c'était possible. Il y a une sorte de gageure impressionnante. Et puis c'est très borgésien. Vous savez, il y a cette phrase dans Fiction de Borges que j'adore. « Délire laborieux et appauvrissant de composer de vastes livres, de développer en 500 pages une idée qu'on peut très bien exposer oralement en quelques minutes. » Et ça, c'est ce qu'il fait, Geoffrey. C'est-à-dire qu'il ne s'embête pas. Il avait là-dedans suffisamment de munitions pour écrire quoi ? 300, 400 livres ? Il les a bazardés comme ça en une page et demie. C'est génial. C'est vraiment une sorte de feu d'artifice. Mais c'est vraiment une sorte de dépense pure, une sorte de don à la Mauss, une pure dépense de fiction qui, à l'heure où on aime démesurément le réel, le vrai, le concret, ceci est tiré d'une histoire vraie et tout. Ben c'est quand même l'éloge de la fiction la plus belle qu'on pourra lire à mon avis cette année.
On va y revenir, Jean-Christophe Brianchon, un premier regard sur ce pavé de 1000 pages.
Bah effectivement, c'est un don à la Amos, effectivement, si ce n'est que il n'y a pas seulement le donateur qui prend du plaisir, en l'occurrence, puisque le lecteur, là, il prendra un réel plaisir. C'est une expérience de lecture qui est effectivement assez subjugante. On a affaire à un auteur qui, comme le dit Laurent, bazarde toutes ses idées en n'en ayant à peu près finalement rien à faire. Enfin, il y a comme tous les gens de toute façon brillants, finalement, je sais même pas s'il a conscience réellement de ce qu'il fait, ça nous est jeté au visage comme ça. Et avec effectivement un brio dans le style et un brio dans la forme qui sont assez remarquables, qui sont aussi la faiblesse quand même du projet, enfin la faiblesse d'une certaine manière, dans la mesure où évidemment ça peut tourner à l'exercice de style et la mécanique étant quand même tout le temps un petit peu la même, la mécanique de d'effroi et de violence par rapport à ces personnages et au monde, plus par rapport à ces personnages qu'au monde, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que du coup il arrive quand même à établir une relation entre une détestation du monde et une empathie pour ces personnages, tout en étant tout à fait conscient que ces personnages sont exactement ceux qui construisent le monde qu'il dépeint. Donc, mais malgré tout, il parvient quand même à avoir un regard sur eux, en développant ce que j'ai lu dans Le Monde cet après-midi. Claro parle de poétique du pathétique, ce qui est effectivement tout à fait vrai. Je trouve que c'est peut-être l'expression que je n'aurais pas su trouver, qu'il a trouvé, que je trouve vraiment très bonne. Ça reprend exactement ça, puisque on plonge de toute façon, quels que soient les personnages, dans une médiocrité absolue, mais toujours avec une douceur et un humour, un recul qui nous font de toute façon, malgré tout, les aimer et malgré tout nous prendre conscience de notre part active à cette merditude du monde qui nous dépeint.
Elisabeth Philippe, vous partagez cet enthousiasme ?
Je partage absolument cet enthousiasme. Pour moi, Régis Geoffrey, c'est un peu la sorcière dans Blanche-Neige, vous savez, qui tend cette pomme extrêmement appétissante. Là, c'est le style de Geoffrey, un style absolument rutilant, extrêmement précis, travaillé, ciselé, avec l'emploi de mots rares ou d'expressions telles que « il m'a coïté » ou il y a une des microfictions qui s'intitule « enchiffronné », qui signifie « enrhumé », mais un terme qui est moins usité. Et derrière ce style absolument brillant, il y a un poison toxique, quoi, hautement toxique, un concentré de cruauté, de perversion. Parce qu'on n'est pas vraiment rentré dans le détail de ces histoires, mais il est question évidemment de parents qui n'aiment pas leurs enfants, de cendres d'aïeux disparus sur lesquels on pisse allègrement, d'attentats, de meurtres, d'incestes. Enfin, tout y passe. C'est vraiment une parade monstrueuse. Et en même temps, au sein même de cette monstruosité réside l'humanité dans ce qu'elle a de plus, bah oui, de plus pitoyable et de plus humaine aussi. Donc c'est ce mélange-là qui est fascinant chez Geoffrey, en plus de cette langue quand même sur laquelle il faut insister, parce que je crois que c'est vraiment ce qui fait la force des livres de Geoffrey, même ceux qu'on peut aimer moins. Moi, je sais que j'ai été moins convaincue par certains romans, non pas comme Laurent Nunez, par ses romans ancrés dans le réel, tels que Clostria ou celui consacré à Desca, que je tiens pour de très grands livres, mais par exemple Tibère et Marjorie, là, où Geoffrey tire vraiment le fil du côté grand guignol qu'on peut trouver dans microfiction. Mais malgré tout, c'est toujours rattrapé par cette langue, quoi, qui est absolument fabuleuse et assez rare, je trouve, dans la littérature.
Comment on pourrait la décrire justement cette langue, parce que c'est très particulier, c'est très court, enfin il y a la brièveté qui est le moule que s'impose absolument, parce que quand je dis une page et demie, c'est une page et demie, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois 3-4 lignes de différence entre les nouvelles, mais ça impose au style même.
Parce que c'est un style à la fois très précieux et précis, mais précieux pas dans le sens affecté, il y a quelque chose de, chaque mot est pesé, quoi. C'est vraiment formidable, et je crois, parce que je l'ai interviewé, il disait qu'en écrire une par jour, c'est une micro-fiction par jour. D'ailleurs, il a déjà écrit un troisième tome. Il y a déjà un troisième volume. C'est pour ça la puissance démiurgique de Geoffrey. Enfin, Laurent Nunez évoquait l'imaginaire, mais c'est vrai que c'est une puissance absolument sidérante.
Comment vous comprenez tous les trois la note roman qui est donc posée sur la couverture et à laquelle apparemment Régis Geoffrey tient beaucoup, c'est-à-dire que pour lui c'est un roman. Or, quand on le lit, c'est vrai, moi j'ai pas tout lu, hein, j'avoue, j'ai lu surtout le début et la fin. On ne voit pas ce qui constitue traditionnellement un roman, notamment pas vraiment d'évolution entre le début et la fin du livre, Laurent Nunez.
Oui, la catégorie générique, elle aide déjà les éditeurs et les libraires à la classer du côté. Mais c'est très important, parce qu'il faut que le livre soit très bien classé pour qu'on le trouve en librairie et qu'on le vende. C'est la première raison des éditeurs, vraiment. La raison de Geoffrey, si je suis pas dans sa tête comme lui, il l'est à chaque fois dans la tête de ses personnages, parce d'ailleurs à chaque fois c'est la première personne, très souvent. Mais à mon avis, c'est parce que, vous savez, le roman... le roman est tellement vague et tellement large dans sa définition qu'il incarne pas forcément une évolution ni tout peut être roman. Les faux monnayeurs chez Gide, il dit que c'est une sorte de coupe, c'est comme un gâteau qu'on coupe, et tant pis s'il y a pas de début, s'il y a pas de fin, s'il y a pas d'évolution, la part tant qu'il y a une narration, il y a, et là on a l'impression qu'il a voulu, il y a un personnage principal, c'est quoi, c'est la foule, c'est parce que c'est, ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles là prises indépendamment les unes par rapport aux autres, elles sont intéressantes, mais elles ont moins de valeur que tout réuni. Ça qui est incroyable, c'est que la somme est plus importante que la somme des parties, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est la totalité. On tient dans sa main, on tient dans sa main une sorte de foule. Et ça qui est assez novateur, qui est assez terrifiant, parce que en effet, vous l'avez dit, enfin, c'est très dur de lire le livre d'un bout à l'autre. On a envie de sauter des passages. En plus, on dit on sait rien, je rate une page et demie. Et puis, vous savez, il faut aussi parler de la création. La forme de ce livre, les nouvelles sont classées par ordre alphabétique, mais en fait, dedans, à l'intérieur, il y a des thèmes qui ressurgissent. Très souvent, les enfants sont classés tous ensemble, les personnes âgées qui sont toutes détestables, catastrophiques, qui ont toutes des vies, mais alors horribles. Il y en a une très très belle, il y a une femme qui vient voir un médecin parce que le médecin donne trop de Viagra à son mari qui avait dirigé un très célèbre journal. Il aime bien Geoffrey se moquer comme ça. Voilà, c'est hilarant, mais alors, ça qui est drôle, c'est aussi, voilà, c'est plus construit qu'on ne le croit. Et c'est beau, c'est la force de Geoffrey. À la fois une foule, c'est-à-dire un magma de personnes, aucune tête dépasse, il y a toute compte et aucune ne compte, et en même temps visiblement caché, codé, c'est une construction qu'il faudra découvrir au fil du temps.
Jean-Christophe Brianchon, il y en a une en particulier qui a attiré votre œil de lecteur?
Il y en a plusieurs, mais pour revenir à ce qu'on se disait là, juste, je pense que la forme du roman, elle est quand même assumée, dans le sens où il y a une de ses premières parmi les premières nouvelles, il y a une phrase moi qui m'a accroché, où il parle de je crois qu'il pose la question, c'est exister ou être dans le monde, telle est la véritable aventure humaine, et ça tient à ça aussi, c'est aussi et c'est en cela qu'il est d'une certaine manière balzacien, c'est dans son rapport à l'aventure humaine, justement. C'est pas des récits individuels, c'est pas du tout ça, je pense. Et ça doit évidemment pas nécessairement être lu voilà, de manière linéaire, quoi. On peut le lire, je pense, de la façon qu'on le souhaite, mais coûte que coûte, ressortira de ça quelque chose qui effectivement a à voir avec l'aventure humaine et au questionnement ontologique des personnages qui peuvent être du coup les nôtres éventuellement, si c'est, quand c'est bien fait. Et c'est en ça que pour moi c'est un vrai roman, quoi. Et c'est un roman qui pose les questions de la communauté ou de la solitude dans la communauté éventuellement. Et après, pour ce qui est de celles que j'ai particulièrement aimées, moi j'ai beaucoup aimé celles qui sont très absurdes. Il y en a une qui s'appelle Hillary Clinton, qui est vraiment très très drôle. Ou pour la raconter rapidement, c'est une jeune femme qui est serveuse dans un serveuse au crayon, je crois. Et Hillary Clinton prend son petit déjeuner au crayon. Elle lui renverse le thé sur les jambes. Elle est bouillante et son premier réflexe est de lui mettre du coup une paire de baffes. Et sa formule, c'est j'ai eu le réflexe de lui mettre une paire de gifles pour lui faire récupérer sa dignité rapidement. Et après, elle dit ça a marché. Et ensuite, Hillary Clinton s'en va et la fin que je raconterai pas est vraiment, je trouve, particulièrement drôle. Et j'aime beaucoup la façon dont il manie l'absurde, qui est quand même, là en l'occurrence, il manie un absurde quand même ancré dans une réalité sociale et politique qui veut dire quelque chose malgré tout. Et c'est là aussi qu'il a un talent, et je trouve que c'est peut-être là où personnellement il m'apparaît être le meilleur, parce que après, quand il est simplement cynique face entre autres à la vieillesse ou face aux parents, je trouve que là ça peut tomber dans une certaine facilité qui parfois me dérange.
Elisabeth Philippe.
Oui, cette facilité, mais en même temps, elle est assez délectable aussi, parce que c'est du
c'est
pur
là qu'elle est
mauvais
dérangeante,
esprit.
Justement. Et... c'est qu'on ne peut que y souscrire quasiment. Ouais. Enfin,
c'est un Houellebecq sympa.
Et oui, c'est une très bonne, c'est une bonne formule.
Sympa, je
ne
sais pas. Houellebecq, en tout cas.
Et malgré ce côté, effectivement, qui peut être absurde, il y a pas mal de... Vous parliez d'Hillary Clinton, on trouve aussi Mouammar Kadhafi, Jean-Jacques Rousseau, Régis Geoffrey se met aussi en scène lui-même. Oui, Mitterrand ou Gaston Gallimard. On trouve toutes sortes de choses comme ça assez savoureuses. Régis Geoffrey met même en scène son propre enterrement. Il y a beaucoup de personnages pas mal de personnages de romanciers. La question de l'écriture est aussi très, très présente dans ce livre. Pour revenir sur la question du roman, du genre, on peut quand même dire, même si effectivement on peut reconnaître à Geoffrey que oui, il a écrit un roman et tous les arguments avancés par Laurent et Jean-Christophe sont tout à fait justes. On peut aussi dire qu'il a inventé un genre en soi avec ses micro-fictions. On peut aussi lui reconnaître ça. Et pour rebondir sur cette question de l'absurde qu'évoquait Jean-Christophe, c'est pas non plus totalement déconnecté du réel. C'est quand même un observateur très fin de ce qu'on vit, du monde dans lequel on évolue. Il y a énormément de notations sur les réseaux sociaux, d'allusions comme ça à des événements récents qui font partie de notre environnement actuel. Donc c'est ce mélange entre d'une inscription dans un vrai réalisme et d'absurde qui fait aussi cette singularité de l'écriture de Régis Geoffrey.
C'est là qu'il peut y avoir aussi peut-être quelque chose d'agaçant que moi j'ai un petit peu ressenti à la lecture, qui est qui touche à son point de vue. Au fond, où est-ce qu'il se situe le narrateur, s'il y a narrateur et là, vous disiez Balzac, oui, il adopte un point de vue assez moraliste en fait sur le monde d'aujourd'hui, la manière dont il dépeint le monde.
Moi, je trouve qu'il nous laisse un peu nous débrouiller avec ce qu'il nous donne en pâture, ce qu'il nous jette en pâture comme ça.
Laurent Nunez.
Oui. Oh, mais Geoffrey est désabusé, ça il faut le reconnaître dans son écriture, mais en effet.
Et en surplomb. Désabusé, un peu en surplomb.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que il se considère comme qu'un écrivain. Il considère qu'un écrivain, c'est comme un acteur. C'est-à-dire, il fait disparaître son moi pour le remplacer par le moi de ses propres personnages. C'est peut-être pour ça, à mon avis. Mais en lisant, moi, je songeais que, vous savez, cette forme courte, c'est intéressant parce qu'elle a une grande vie au début du siècle avec un écrivain qui s'appelle Félix Fénéon, qui écrivait des nouvelles de 3 lignes, vous voyez. Et je regardais ces derniers jours, il y a une nouvelle vie, là, il y a même sur Twitter, qui est la forme courte par excellence, il y a un compte assez intéressant qui s'appelle Nanofiction. Et justement, ils essayent de raconter de la fiction en 280 signes. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, il y a quelque chose là-dedans c'est compliqué à expliquer. Plus on se donne de structures, de règles à suivre, et plus finalement l'inspiration vient. Il n'y a pas de doute que Geoffrey il arrive à écrire une micro-fiction par jour grâce à ce qu'il s'est donné. C'est-à-dire que vous l'avez dit, ça fait presque exactement le même nombre de signes. Exactement. Il y a quelque chose d'assez beau là-dedans sur la force des règles, la force créatrice des règles.
Jean-Christophe Brianchon.
Pour ce qui est du surplomb de l'auteur, je suis d'une certaine façon d'accord, dans la mesure où il impose à ses lecteurs, j'allais dire à ses personnages, mais en fait non, il impose à ses lecteurs la réalité de personnages qui sont évidemment par la médiocrité qui pourrait nous faire croire qu'il est en surplomb, mais en fait pas du tout. Et enfin, je pense pas, dans la mesure où pour moi c'est un roman qui en fait s'approche beaucoup des deux autres dont on va parler ce soir, dans le sens où c'est un romancier qui décrit la perte et décrit l'incapacité quand même beaucoup de ces personnages à trouver une place quelque part. Il y a quand même dans de nombreuses nouvelles la question de savoir comment occuper le monde, comment ne pas en être absent et comment vivre dedans. C'est une question qui revient souvent et avec beaucoup de tendresse, je trouve. Et malgré le cynisme qui met dans ces personnages, qui est traité avec une finesse qui est pas anodine. Il y a une nouvelle dont le titre est très vulgaire parce qu'elle s'appelle Dard dans le cul. C'est malheureux, mais
vous aviez envie de le dire, je sens.
Non, pas du tout. J'avais pas envie de le dire, mais parce que pour moi, c'est peut-être celle où effectivement ce sentiment de perte du personnage est le plus intéressant. Et là, la question se pose vraiment très frontalement. D'ailleurs, le personnage le dit et nous se le demande quand et à quel moment je vais réussir à exister dans ce monde-là. Est-ce que je vais un jour occuper cette place-là? Et donc c'est pour moi pas du coup un auteur qui serait en surplomb ou qui serait en tout cas qui aurait une position réellement cynique par rapport à ses personnages. Il a une position cynique par rapport au monde dans lequel on vit, mais une vraie tendresse par rapport à ses personnages qui se posent de vraies questions.
Elisabeth Philippe, un dernier mot?
Oui, peut-être simplement pour ceux qui seraient effrayés par le volume, donc qui fait quoi, 1000 pages.
1000 pages, hein.
Ils peuvent se contenter de la lecture des titres qui, à eux seuls, sont déjà des petites perles. Je vais en citer quelques-uns. « Emboîté par un jeune homme », « Faire débander le bon Dieu », »,« Le psychisme fragile des teckels », c'est mon préféré personnellement, ou « Terrorisme avec des copains ». Donc, simplement le sommaire et la liste des titres, c'est déjà un très beau programme en soi.
Voilà donc en ce qui concerne Microfiction 2018 de Régis Geoffrey, paru chez Gallimard, à suivre dans la dispute Philippe Forest et Kate Tempest.
France Culture.
La dispute.
Nous sommes toujours au cœur de la dispute ce soir consacrée à la littérature. Nous poursuivons avec le 8e roman de Philippe Forest, paru chez Gallimard, intitulé L'oubli. Un roman comme presque toute l'œuvre de l'auteur hanté par le manque. Cette fois-ci, ce n'est pas le deuil, mais comme son titre l'indique, l'oubli, le vide que creuse un mot oublié dans la conscience d'un homme alors qu'il séjourne dans une île désertée par les touristes. Un matin, un mot m'a manqué. C'est ainsi que tout a commencé. Un mot, mais lequel, je ne sais pas. Sinon, ce serait simple et je n'en parlerais plus. Je dirais quel mot, alors il me serait rendu. Il reprendrait sa place parmi les autres. Je n'en ferais pas une affaire. Tout, aussitôt, rentrerait dans l'ordre. Je pourrais m'arrêter là. On passerait à la suite. Il n'y aurait rien à raconter. Il n'y aurait rien eu à raconter. Ce serait très bien. On a toujours intérêt à en dire aussi peu que possible, je crois. Ne pas se faire trop remarquer, si vous voulez mon avis. Jean-Christophe Brianchon, sur l'oubli de Philippe Forest.
J'ai toujours un peu de mal à parler de lui, parce que c'est peut-être mon auteur vivant français favori. Donc, et j'ai toujours du mal à trouver la justesse, à m'accorder à la justesse qui est la sienne en tout cas. Là, d'autant plus là que c'est certainement, selon moi, son roman le plus... peut-être pas le meilleur, mais en tout cas le plus complexe, et ce qui faisait pas de mal, parce que parfois, malgré l'amour que je lui porte, il a pu parfois se confondre dans une certaine forme de facilité quant à son sentiment et quant à la tristesse qui est la sienne. On peut lui reprocher, et c'est d'ailleurs le cas, je trouve, dans les premières pages du roman, une certaine emphase qui est... un peu lourde, quoi, par moment même souvent, quand il parle, il y a un moment, j'ai noté, ça m'a fait beaucoup rire, malgré tout, quand il parle des mouettes qui célèbrent par leur cri la majestueuse insignifiance du monde pour laquelle il n'existe aucune explication qui aille. Bon, il est au bord de la plage, il regarde des mouettes. Hein, bon. Alors, forcément.
Mais donc,
voilà,
pour un auteur que vous aimez.
Non, mais c'est vrai que, voilà, ça existe chez lui, quoi. Il y a ce problème-là qui est présent dans les 40 premières pages et puis qui s'efface petit à petit dans une construction qui est assez complexe, puisque là, alors, finalement, et c'est ça que j'aime aussi, cette histoire d'oubli de mots n'est qu'un prétexte, de toute façon, n'est qu'un prétexte de romancier, une astuce pour pouvoir, une fois de plus, nous parler de ce dont il a envie. En l'occurrence, de l'oubli, puisque vous parliez du manque dans ses précédents romans. Là, à travers l'oubli, c'est évidemment, en fait, contrairement à ce que le titre implique, c'est l'oubli pour ne pas oublier et pour ne pas oublier que justement, il manque de quelque chose. Donc c'est un rapport à l'oubli qui est très intéressant, dans une construction qui est donc assez complexe, puisque là, on suit ce narrateur qui parle à la première personne, qui s'est isolé sur une île, dont je n'ai pas réussi à savoir laquelle elle était d'ailleurs, mais bon, en tout cas sur une île, et voilà, qui digresse au bord de la plage et dans sa chambre dans laquelle au-dessus du lit se trouve un tableau blanc qui lui permettra évidemment une fois de plus de nous parler de toute cette idée de reflet avec l'eau, le blanc, c'est des thématiques qui sont très présentes chez lui, le reflet de l'âme dans le vide du monde, quoi, en quelque sorte, quoi. Et donc il le dit très bien, il le dit une fois de plus très bien, dans une construction parfois alambiquée, parfois avec un petit peu trop d'emphase, mais in fine, vraiment une fois de plus très belle.
Elisabeth Philippe.
Oui, donc comme vous l'avez dit en introduction, Philippe Forest creuse toujours ce thème du vide, du manque. Cette fois-ci, donc avec ce motif du mot perdu, le fait qu'il se trouve que le narrateur, dont on sait très peu de choses, hein, c'est un homme dont on ne sait pas d'où il vient, ne connaît pas son nom, ne connaît pas son activité. Il va se faire passer pour un photographe et voilà, le fait que ça se passe sur une île, moi, ça m'a fait penser à cet épisode de l'Odyssée, l'île des Lotophages, donc sur laquelle les compagnons d'Ulysse débarquent et se retrouvent en présence des habitants de cette île qui se nourrissent de lotos, une plante donc qui fait oublier à ceux qui la mangent qui ils sont et d'où ils viennent. Donc, et en un sens, ce livre est aussi une odyssée puisque ce mot manquant, le narrateur va se mettre en quête de ce mot, essayer de le retrouver. D'abord en compulsant des dictionnaires pour tenter de le retrouver, ça ne fonctionne pas. Il s'auto-diagnostique, et après des recherches, il dit voilà, ben, j'ai trouvé le mal dont je suis atteint, c'est une aphasie léthologique, si je ne me trompe pas. Et donc il va consulter un médecin, consulter un psychiatre, toujours en vain. Parce que vous parlez de cette emphase, mais moi je pense qu'il y a aussi pas mal d'humour chez Forest. Il y a notamment tout ce passage où il se dit, bon, finalement c'est un mal, peut-être qu'il ne me touche pas que moi, mais dont tout le monde souffre. Et donc il va consulter ces livres qui ont pas mal de succès en ce moment en librairie, dans lesquels des auteurs déplorent la corruption du langage, menacés, qui courent un péril mortel, vous savez, comme le disent les académiciens, menacés donc par les nouveaux moyens de communication, menacés par la démission des élites, j'en passe et des meilleurs. Et là, bon, bah, le narrateur n'est pas plus convaincu. Et finalement, et moi c'est là que je trouve ça magnifique, et vous parliez de cette construction un peu en forme de boîte chinoise qui s'emboîte, finalement, ce mot, il va finir par le retrouver en explorant de plus en plus et ses rêves et son passé. Et là, Forest réalise en littérature cet ars memoriae qui était très en vogue à la Renaissance, donc ces architectures mentales qui seraient des sortes de moyens mnémotechniques. Et il le réalise vraiment par la construction même de son roman, ce que je trouve absolument fabuleux. En plus, moi, ce sont des choses qui me touchent beaucoup. Mais bon, ça, à la limite, on s'en moque. Et c'est ça qui est très, très beau. C'est cette construction, cette architecture. Et puis, ce que ça dit, je trouve que c'est un roman teinté de philosophie blanchotienne. On trouve aussi énormément de... C'est très malarméen. C'est ce que vous disiez sur le blanc, sur l'absence, sur le vide. Et ce tableau joue un rôle aussi très important, c'est-à-dire que ça se donne comme un monochrome blanc, mais chaque jour le narrateur semble voir une petite évolution dans ce tableau. Et je trouve que c'est une très belle métaphore pour l'œuvre de Forest. On a l'impression de chaque fois lire le même livre, mais il y a toujours une petite évolution et qui est tout à fait déterminante. Et ça, je trouve ça magnifique. Et même si à chaque fois je joue un livre, bon, comment va-t-il une fois de plus me parler de ce manque ? Et à chaque fois, c'est éblouissant.
Oui, c'est vrai que les premières pages, je trouve le côté très métatextuel de la manière dont il construit son récit peut paraître un petit peu fatigant, presque un peu ennuyeux. Et puis finalement, on s'attache. Et aussi, je trouve, par l'humour et cette espèce d'autodérision qu'il porte très fort
et
dans
son écriture. Et puis ce jeu référentiel, bon, qu'on peut voir ou non, mais je trouve qu'il donne encore une profondeur, une dimension supplémentaire à l'œuvre. Et je trouve ça vraiment très, très beau.
Laurent Nunez.
Ouais, je suis complètement d'accord avec mes deux confrères. Alors, je vais simplement répéter en plus mal et en plus long. En effet, le début m'a profondément ennuyé. Moi, j'étais très surpris. Je me suis demandé si c'était une sorte, pas une blague, quand même pas, parce que, mais il y a quelque chose comme ça où c'était pas intéressant. Quelqu'un qui cherche un mot. Ça commence mal. C'est beaucoup trop artificiel. Initialement, quelqu'un qui cherche un mot, qui se met à lire un dictionnaire pour trouver ce mot-là, alors il faut croire en beaucoup d'humour, parce que sinon on fait tomber le livre. Et puis en fait, quand on regarde le livre, il y a des choses qui interpellent. Vous savez, par exemple, le contraire de l'oubli, c'est quoi? C'est la reprise, c'est l'intertextualité. Tout le début ressemble énormément à la recherche dans la chambre. Le livre s'appelle L'oubli. Forest a écrit une magnifique biographie d'Aragon qui a écrit Blanche ou l'oubli. C'est un livre qui flirte avec un autre livre de Pascal Quignard qui s'appelle Le nom sur le bout de la langue. Donc voilà, c'est un livre qui est fait contre l'oubli parce qu'il est fait déjà il est tissé de plusieurs autres thèmes qui arrivent comme ça. Et au début, j'ai eu très peur de la direction vers laquelle allait ce livre. Et puis j'ai été pris, j'ai été emballé. Il est arrivé à travers une sorte de double histoire, parce que c'est quelqu'un qui enquête, et puis c'est quelqu'un qui vit dans une île avec une libraire, un peintre, un modèle. Il y a une sorte d'histoire là-dedans quand même qui arrive. Et j'avoue que alors ce qu'il dit en effet sur le langage est connu des philosophes, mais on peut le redire encore, il le dit très très bien, sa notion, c'est que si un mot manque, ça veut dire que le langage n'est pas à nous. Nous l'avons acquis très tôt, c'est vrai, mais il peut redisparaître. Alors même quand nous parlons, même que nous pensons, même quand nous éprouvons des sensations avec les mots ne sont pas à nous. Ça c'est très intéressant, cette trouvaille. Moi j'étais assez emballé, notamment par la fin. Voilà, c'est compliqué à dire, la fin, une sorte de mise en abîme. Très belle, qui a un effet tellement profonde, tellement incroyable qu'elle balaye toute la facilité du début. Voilà, et on se demande tout d'un coup si alors je suis compliqué, ce que je peux pas dire à la fin, mais on se demande tout d'un coup si on a bien lu le livre, et de la même manière que Forrest se demande s'il a bien vécu sa vie, si le livre qu'il lit ou le tableau qu'il regarde représente bien ce qu'il a cru voir.
Oui, parce que tous les éléments de récit et d'enquête que sont l'île, enfin les éléments un peu concrets, on pourrait dire les personnages, l'île, le tableau, au fond, on ne sait jamais si on est à l'intérieur ou à l'extérieur de la conscience de ce jeu qui reste quand même assez mystérieux, Jean-Christophe Brianchon.
Pour revenir sur ce que disait Laurent, sur la facilité du procédé, je pense que... Je n'en ai pas voulu au début, en tout cas. Enfin, j'ai trouvé ça assez laborieux, mais finalement, c'est pas, c'est un truc de romancier, quoi. Ça n'est rien d'autre que ça. Et lui s'en empare quand même pleinement et le fait exactement. Moi, j'avais lu il y a pas longtemps La Clarinette de Vassilis Alexakis, qui part exact. C'est exactement le même point de départ. C'est un homme qui a oublié un mot et qui cherche un petit peu à savoir le pourquoi du comment. Bon, mais donc c'est une astuce, mais dont lui s'empare avec un tel brio, et pour nous amener là encore, je trouve, quelque part totalement ailleurs, de voire même à l'opposé de là où il nous emmenait avant, puisque son rapport à la mémoire avant était quand même très très lourd, dans le sens où on pensait que l'oubli pour lui était la seule solution finalement. Enfin, on avait plus l'impression de lire quelqu'un hanté par l'idée du souvenir que par la possibilité de l'oubli. Et en fait, il arrive à retourner la question en nous expliquant très bien, par ce rapport au langage justement, que finalement l'oubli est la seule manière possible de se souvenir correctement, puisqu'en oubliant, on ne refait pas l'histoire finalement. Et ça, c'est par le biais non seulement d'une réflexion sur la langue qui lui permet de nous expliquer qu'évidemment, quand il n'y a pas les mots, il n'y a plus de réel, puisque une fois qu'on n'a plus rien pour le dire, on est obligé de créer une réalité parallèle. Et par la création de ce temple mémoriel, il parvient effectivement à créer cette réalité parallèle qui l'emmènera vers un oubli conscient, qui du coup le fait réellement évoluer par rapport à ses autres livres. Et en ce sens-là, je pense que c'est réellement dans son œuvre un livre important.
Laurent Nunez.
Oui, simplement, je suis en train d'écouter ce qu'on disait. Je me disais qu'en fait, on explique la tristesse. Enfin, on parle de la tristesse de Philippe Forrest, du manque et tout. Peut-être que les auditeurs savent pas du tout ce qu'il en est. Finalement, oui. C'est qu'en fait, voilà, Philippe Forrest a perdu sa fille Pauline lorsqu'elle était très jeune, et ce qui a marqué qui a marqué non pas la littérature, mais son entrée dans la littérature. C'est à partir de là, je crois que c'est l'enfant éternel.
L'enfant éternel,
et qu'à partir de là, il a décidé que presque tous ses livres aller aborder un thème comme ça, un thème de manque et tout. Forrest n'est pas tout quelqu'un qui croit en la résilience, il n'est pas tout quelqu'un qui croit en la possibilité de faire son deuil. C'est un mot qu'il déteste, il écrit un livre sur le deuil, très beau sur ça. Voilà, il pense qu'on peut construire sa vie sur ça, sur le manque, sur un deuil non résolu.
Elisabeth Philippe.
Oui, et chaque fois, ce deuil, il l'aborde par d'une façon différente. On a l'impression qu'il utilise la littérature, tous les outils que la littérature peut lui apporter pour essayer de le, non pas d'épuiser ce deuil, mais d'y plonger à chaque fois d'une manière différente et de nous y plonger d'une manière différente. Et c'est vrai que, par exemple, un de ses précédents romans qui s'appelait Le chat Schrödinger, là, c'était presque un roman quantique, au sens de physique quantique. Ensuite, il s'est aventuré plus sur le terrain du fantastique. Et là, vous évoquiez ces théories philosophiques du rapport entre le mot et les choses, en fait. Donc là, on pourrait presque parler de roman phénoménologique, d'une certaine manière. Et je voulais revenir sur quelque chose. Et Jean-Christophe, vous parliez d'emphase, etc. Là aussi, je pense qu'il faut remettre un peu les choses en place. C'est quand même aussi un style très épuré, quoi, Philippe Forest. Il y a certes parfois ces envolées.
C'est une emphase
calculée. Je pense que c'est effectivement une emphase calculée, mais c'est un style très pur, quoi. Et ça participe évidemment de toute cette recherche de cette réflexion sur l'absence, sur le manque, et là aussi je trouve qu'il n'y a pas un mot de trop, quoi.
Non, rien ne pourrait être enlevé, effectivement, et Laurent parlait de la recherche tout à l'heure. Effectivement, il y a quand même dans sa manière d'écrire et dans l'espèce de tourbillon dans lequel il nous entraîne à travers ses tournures très alambiquées et parfois très emphatiques, il y a effectivement quelque chose
pas
de...
alambiqué, hein.
Non, c'est du lyrisme, ouais, c'est pas vraiment en phase, Jean-Christophe.
Je trouve que c'est une langue très fluide. Je trouve ça très.
Oui, c'est fluide, mais c'est fluide comme Proust peut être fluide, quoi. Je trouve que c'est une langue dans laquelle on rentre et de laquelle il est très difficile de se défaire, mais pour autant qui est pas. Je sais pas, non, c'est pas. Enfin, voilà, c'est l'inverse d'une écriture blanche, quoi. On n'est pas du tout là-dedans.
Ah non, bien sûr.
Donc,
non.
Dans ce sens-là, elle a quand même une certaine forme de.
D'autant qu'il y a de la chair, il parle de l'oubli, mais il y a à un moment une référence à Musset, c'est l'oubli et le plaisir aussi. Et parce qu'il y a ce personnage, je parlais d'Odyssée, d'Ulysse, il y a ce personnage de femme qui émerge des flots, et d'ailleurs les souvenirs commencent à lui revenir au moment où la mer ramène cette femme sur le rivage, une femme un peu sirène. Donc là on est encore dans cette dimension à la fois mythologique et poétique, et donc il y a une sensualité aussi qui s'installe dans le roman. Donc c'est pas seulement, faudrait pas donner une fausse idée du livre en parlant de méditer, c'est pas seulement méditatif, quoi, c'est beaucoup plus complexe que ça, et je trouve que c'est ce qui fait la grande beauté de ce texte.
Pas facile finalement de le décrire, livre.
Très difficile.
L'oubli donc de Philippe Forest, paru chez Gallimard.
France Culture,
La Dispute.
Troisième et dernier sujet de cette dispute littéraire, écoute La ville tombée de Kate Tempest, paru chez Rivage dans une traduction de Madeleine Nazalik. Alors Kate Tempest, qu'on connaît plutôt comme slameuse, performeuse, poète anglaise, Laisser la ville tomber est son premier roman, un roman choral dans lequel on suit le parcours d'une poignée de jeunes gens désenchantés dans le Londres d'aujourd'hui, un Londres souvent nocturne, rongé par la drogue et la vanité des divertissements contemporains. Un morceau de Kate Tempest extrait de son album Everybody Down, paru en 2014, dans lequel il est déjà question de deux des personnages qu'on retrouve dans le roman, Pete et Becky. Alors, Elisabeth Philippe, qui sont-ils ?
qui sont Pete et Becky. Alors, ce sont des jeunes gens qu'on découvre au tout début du roman dans une scène de cavale qui est absolument éblouissante. Je trouve que l'ouverture de ce livre est bluffante. Donc, trois personnes dans cette voiture. Harry, une jeune dealeuse androgyne, Becky, sa maîtresse, une danseuse à la carrière un peu compliquée, et Pete, qui est l'associé de Harry, la jeune dealeuse. Et ils sont tous les deux en voiture dans une Ford Cortina qui file comme ça dans les rues de Londres, en cavale. On comprend qu'ils ont dérobé le magot donc des oncles de Becky. Et là, la langue de Kate Tempest, véloce, énergique, nerveuse, électrique, nous happe immédiatement. On est vraiment pris dans cette fuite en avant et par les vitres de cette voiture dans laquelle on se retrouve aussi avec les personnages. On voit défiler ce Londres qui est un personnage à part entière du roman. Et cette foule qui est en deux mots, alors elle c'est encore plus rapide que Régis Geoffrey, en deux mots seulement, elle décrit un personnage et on a énormément de personnages comme ça qui défilent sous nos yeux. Donc c'est cette foule et à la fois cette solitude urbaine qui est magistralement, je trouve, décrite dans ces quelques pages d'ouverture. Et ensuite, donc Kate Tempest va fonctionner par flashback. On va comprendre comment ces personnages en sont arrivés à devoir fuir ce Londres qui est souvent métaphorique, décrit comme un animal prédateur et dont il faut tenter de se sortir de ses griffes. Et là aussi, dans ce choix de métaphore, je trouve que Kate Tempest est très, très, très brillante. Alors parfois, ça fonctionne un peu moins bien quand elle l'applique à... Il y a des formules un peu moins heureuses que d'autres, on va dire, mais pris dans ce flot, encore une fois, extrêmement rapide, extrêmement nerveux, je trouve que ça passe. Et puis, elle a cette facilité. Alors, ça peut en rebuter certains. Moi, j'étais un peu partagée, c'est-à-dire que de ces personnages principaux dont on a parlé, à partir d'eux, elle va dérouler les vies de leurs parents, de leurs amis. Donc, il y a comme ça toute une société qui se déploie, encore une fois, de façon très très rapide, ce qui ne l'empêche pas de rentrer dans le détail des existences de ces multiples personnages. Et je trouve que ça donne au livre, moi, c'est un livre qui m'a rappelé un peu le Vernon Subutex de Dépendre, dans cette façon de radiographier toute une société. Ça serait un peu un mix de Dépendre et de Dickens, quoi, pour aller très très vite. Et on en ressort assez essoré, assez lessivé, et en même temps avec ce rythme comme ça qui nous a porté pendant tout le temps de la lecture.
Londres qu'elle remercie d'ailleurs, hein, parmi les remerciements, voilà, à la fin. Oui. Salut à toi, le sud-est de Londres.
Elle dédie aussi le livre.
Tout à fait. Laurent Nunez, vous avez été pris dans ce Londres effréné de Kate Tempest?
Dieu m'en garde. Non, moi, c'est un livre qui m'a pas intéressé. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, c'est structurel. C'est lié à la manière d'écrire. C'est lié à l'éloge du réel. Ça fait, vous savez, moi, je crois que la littérature, je suis passé pour un gros réac, mais je pense que c'est ceux qui privilégient le réel qui sont des réacs. Le réel et la littérature s'opposent. Et ceux qui tentent dans la littérature de copier, mais complètement le réel, ça, c'est pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Or ici,
enfin, vu qu'elle utilise que des métaphores, je vois pas comment vous pouvez parler de copier littéralement le réel.
Des métaphores, c'est pris dans le réel. Des métaphores, il est dur comme un rocher. C'est une métaphore à laquelle je me passerais volontiers. Non, pour moi, il n'y a pas. Comment dire, c'est des aventures. Alors c'est des pentes. C'est des pentes. J'avais pas non plus adoré Vernon Subutex. Je continue mes dégoûts. Voilà. Pour moi, je remarque que c'est très bien traduit. C'est-à-dire, c'est formidablement traduit. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien traduit. Mais c'est-à-dire que on a l'impression que c'est la langue de tous les jours. C'est vrai. Mais pour moi, comprenez des histoires qui privilégient presque le réel. Et où les gamins s'engueulent à coups de putain avec des U qui font, où il y a 6 U et des putains, des le I. Je vois qu'on me regarde, page 304. Et des I qui, et des U, où il y en a 7. Pour moi, c'est d'un ennui, le mimétisme avec le réel. Je comprends pas. Et je préfère largement l'éloge de la fiction de Geoffrey, la recherche herméneutique de Philip Forrest. Là, voilà, j'avoue que, pour regarder le Londres d'aujourd'hui, j'ai les séries télé. la littérature ne rentre pas.
Bon, Jean-Christophe Brianchon,
je suis d'accord mille avec fois Laurent, d'accord avec Laurent. si ce n'est sur la traduction, et là je vais enfoncer le livre encore plus, et alors peut-être pas le livre, mais en tout cas la seule chose que je pourrais sauver, ou en tout cas ce qui pourrait me faire dire que le livre n'est pas si mauvais que ça, c'est que peut-être il y a un problème de traduction, éventuellement. Mais je suis exactement d'accord avec Laurent, y compris sur Vernon Subutex, qui moi est une trilogie qui ne m'a vraiment pas plu du tout. Je pense que là, on est face à un livre qui se veut effectivement contemporain de Virginie Despentes et enfant de Bret Easton Ellis. Virginie quoi.
Je pense pas qu'elle ait eu Virginie Despentes en tête.
Non, mais enfin dans la filiation, on va dire pas elle consciemment, mais dans l'histoire dans laquelle elle s'inscrit quoi. Et bon, c'est effectivement moi quelque chose qui me déplaît plutôt, parce qu'effectivement on est dans une langue qui n'est qu'au service de la monstration du réel, et je trouve ça quand même effectivement très compliqué, enfin très compliqué, assez facile, mais et bon, alors il y a il faut pas se le cacher, un certain plaisir de lecture, hein, c'est quelque chose qui se lit bien, c'est très bien construit quand même cette fille, malgré tout, effectivement malgré cette langue qui n'est qu'au service de la description des faits, elle construit quand même une œuvre qui est sur le plan romanesque, elle maîtrise parfaitement la construction du récit et elle sait exactement ce qu'elle fait. Effectivement, c'est un récit à rebours, exactement comme Vernon Subutex, qui nous permet au fil du roman de découvrir des gens dont dans la vie desquels on va se plonger individuellement, chacun, comme ça, tout, jusqu'à la fin quasiment. Donc c'est quand même une construction qui est assez habile, qui est très bien menée, qui est très bien faite pour un premier roman, et en plus il me semble qu'elle est quand même relativement jeune, donc
32 ans.
A priori on peut penser qu'elle écrira je pense de très bons livres. En l'état actuel des choses, c'est pas encore ce livre-là qui pour moi sera son bon livre.
Bon, Elisabeth Philippe.
Non, alors vous
piaffez.
Non, je piaffe pas.
Si, je vois
pas,
que vous piaffez.
C'est intéressant d'avoir un débat. En même temps, ça s'appelle la dispute, donc c'est quand même voilà, il faut qu'il y ait un peu de sport parfois. Mais non, parce que votre argument sur le réel là, m'amuse assez, surtout quand vous invoquez Geoffrey pour l'étayer. Régis Geoffrey, justement, dans l'interview que j'ai faite de lui, nous disait, déplorait la haine envers les romanciers et déplorait le fait qu'on interdise l'accès au réel aux romanciers. Dès qu'ils s'emparent du réel, ils sont conduits devant les tribunaux. Donc, en faisant cette critique-là, en disant oh, c'est simplement une monstration du réel, ça copie le réel, c'est du mimétisme. Donc c'est-à-dire que vous coupez d'un pan entier de la littérature mais que vous rejetez simplement parce que
Geoffrey s'empare du réel pour le mythologiser.
Regardez la nouvelle sur Hillary Clinton. Il s'empare d'un personnage
réel.
Mais
là il faisait allusion à ses livres. Clostria, La Ballade de Rikers Island, etc.
Son livre sur Stern et sur DSK, il y a une tentative de rendre le réel légendaire.
Et ensuite, si on
légendaire.
Veut, sans invoquer Geoffrey, parce que ouais. Voilà, on lui a déjà consacré pas mal de temps, et c'est pas du tout comparable, mais je voulais revenir sur cette... ça m'amusait qu'on cite son nom sur la question du réel, parce que là, vraiment, s'il y a quelqu'un qui souhaite pouvoir s'en emparer, c'est bien lui. Et Kate Tempest ne se contente pas de mimer le réel. Je veux dire, si on cherche, si on est en quête de fiction, moi j'aurais presque envie de faire le reproche inverse, c'est que parfois il y a un trop-plein de fiction, un foisonnement trop débordant presque de fiction, justement avec cette démultiplication de personnages pour lesquels elle invente des vies. Et puis il y a cette intrigue quand même qui relève presque du polar ou du roman noir, avec cette intrigue autour de la drogue, du trafic de drogue, Harry, etc., qui va dérober, là on est presque dans des scènes des Sopranos ou d'autres films on pourrait en citer 10 000 sur des histoires de trafic de drogue, là il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit évidemment tout de suite, mais donc non, là je trouve que ces reproches sont pas totalement fondés. Après que vous soyez pas et l'un convaincu par la langue et l'autre par le propos, bon, ça c'est quelque chose, mais cette critique sur l'écriture du réel, j'avoue, me sidère un peu. Et puis non, pour revenir sur les critiques que vous avez formulées, moi je trouve que l'écriture est plus que prometteuse. Encore une fois, je suis d'accord, il y a des métaphores qui sont peut-être moins heureuses que d'autres, mais il y a quand même une énergie littéraire, romanesque et stylistique qui, je trouve, en tout cas moi, m'a emportée.
Oui, c'est drôle, Laurent Nunez, que vous parliez de coller au réel, parce que moi, ce qui m'a peut-être presque un peu déplu que dans un roman que j'ai trouvé quand même de bonne facture, c'est le jeu des coïncidences et l'irréalité totale du fait que ces personnages se retrouvent tous ensemble, et au début et à la fin. Et ça, finalement, vous ne pouvez pas nier que c'est justement totalement irréaliste.
Bah, vous rendez compte ce que ça donne donc quand on écrit avec une écriture du réel très urbaine et qu'on mélange à la mauvaise littérature dans ce cas, c'est-à-dire vous rendez compte que voilà, vous dites vous-même, c'est irréel, ça c'est pas possible, c'est un mauvais romancier le fait, pas un bon. Non, moi ce qui m'a dérangé, ce que je vois et qui sautille et qui.
Mais non, mais c'est les avis péremptoires comme ça. Un bon romancier fait ci, un mauvais romancier fait ça. C'est quand même c'est pas un argument pour moi.
Parlons dans ce cas du livre, puisqu'on peut pas dire ce qu'est un bon romancier ou un. C'est un roman qui ne m'a pas. C'est très subjectif, comme ça au moins, qui ne m'a pas plu parce que je n'y perçois que la tentative de décrire le réel. Alors que moi, ce que je voudrais d'un romancier, c'est qu'il puise dans le réel, et donc j'interdis à aucun romancier, heureusement, de puiser dans le réel, heureusement, pour faire de la littérature. Ici, elle ne propose qu'une tranche de réalité, fût-elle crédible ou réaliste.
Vous parliez
du gâteau
de Gide, là c'est une tranche aussi.
Mais c'est plus possible. Mais non. Gide dans Les Fous Monnayeurs, il se bat avec l'ange à un moment. On n'est plus dans le réel du tout. Non, vous voyez. Enfin voilà, moi c'est. Comment vous dire. Je pense que l'accumulation des très bonnes séries sur les jeunes, sur les problèmes des jeunes et tout, ça m'a lentement vidé de mon désir de lire ça en littérature. Voilà, je regarde des films, ça me suffit. Là, en lire, ça devient une corvée. Je vous l'avoue.
Peut-être c'est la forme chorale justement qui se rapproche en effet de la forme un peu basique de la série télévisée qui vous gêne, Jean-Christophe Briançon.
Moi je suis pas sûr que ce soit ça qui me dérange, bien que je sois pas particulièrement friand de cette manière de faire. Moi c'est encore une fois je pense la même chose que Laurent, c'est qu'il y a quand même dans cette manière de faire une façon à la fois d'épuiser le réel et en même temps enfin il y a une tentative d'épuisement du réel mais qui ne va pas jusqu'au bout puisque les mots n'étant là que pour dire ce qu'ils doivent dire, une fois qu'on parle de civilisation à l'agonie, on a dit quoi ?
Alors, on n'a pas du tout lu le même livre. Enfin, c'est pas.
Moi, j'ai lu une femme qui me parle d'un monde, d'un monde mort avec des amérantes qui tentent plus ou moins avec plus ou moins de panache de continuer
Google,
à trouver une place dans ce monde mort, mais. Bon, pourquoi
c'est,
le monde est mort ? Comment il est mort ? Pour quelle raison
vivant,
il est mort ?
Un roman extrêmement sous tension.
Oui, c'est vivant, mais moi j'ai un peu l'impression, à la fin, j'ai un peu l'impression d'avoir lu Le Club des Cinq au Royaume du Mordor. Quoi. On a des individualités qui ensemble s'amusent bien et puis finissent par trouver une forme d'humanité, mais une forme d'humanité dans un monde de merde. Mais alors pourquoi ce monde de merde ? Cette ville dure.
Où est-ce que vous avez vu que ce sont des personnages qui trouvent une forme d'humanité ? Enfin,
bah si, entre eux, ils arrivent quand même à trouver une manière. De trouver des raisons à la survivance, quand même. Et c'est tout ce qui fait qu'ils y arrivent.
La survivance, c'est juste qu'ils piquent un sac de billets.
Mais ça, c'est matériel, c'est autre chose.
Oui, mais voilà.
Il y a plein de gens riches qui n'y arrivent pas.
Il n'y a pas forcément, je crois pas qu'il y ait ce point de vue-là chez Kate Tempest, cette espèce de vision, comme ça, le salut tout d'un coup par l'union des forces. Je crois
peut-être un petit peu dans les premières pages, justement, le tout début que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais. Les deux premières pages, elles ont quelque chose d'un peu. Moi, j'ai trouvé, je me suis un petit peu méfiée d'un peu adolescent. D'aspiration à décrire
une civilisation en
ruine. Oui. Mais c'est vrai que très très rapidement, on est quand même. Moi, je suis d'accord avec vous.
Merci, Lucille.
On est pris dans le rythme du récit, du pur récit.
Oui, et certes, il y a cette fougue peut-être un peu adolescente, le premier roman, etc. Très bien. Mais il y a une dimension politique dans ce livre, mais je pense pas du tout qu'elle soit celle que vous avez évoquée, Jean-Christophe, pardonnez-moi.
Ah, je parle pas d'elle.
Je pense que derrière, oui, parce qu'il y a les parents souvent sont des personnages qui ont porté des idéaux, donc la désillusion est très présente, et puis leurs enfants, donc qui sont les personnages principaux, se retrouvent sans rien, quoi, totalement dans la désillusion, sans travail, sans idéaux, etc. Il y a ça. Mais, Kate Tempest, toutes ces idées-là, C'est pas non plus un roman à thèse. Elle le fait passer, elle leur donne chair quoi, à travers ces personnages qui sont vraiment extrêmement bien construits. Et simplement une petite chose, moi, le personnage de Becky, le personnage de cette danseuse, je sais pas si vous avez lu le roman de, le dernier roman de Zadie Smith qui n'a pas encore été traduit en français, qui s'appelle Swing Time, où on retrouve un personnage de danseuse. Bah là, pour le coup, Zadie Smith, j'aurais aimé qu'elle colle un peu plus au réel, parce que son personnage, on n'y croit pas une seconde. Or, ce qu'on peut vraiment reconnaître à Kate Tempest, c'est qu'elle nous plonge dans ce bain londonien, dans cette urbanité, dans cette violence aussi, et elle nous y émerge complètement, elle nous y plonge totalement.
Jean-Christophe Briançon.
Moi, vous parlez de violence, c'est aussi ce qui m'a dérangé et ce qui m'avait dérangé aussi dans Vernon Subutex, c'est que je trouve que c'est des romans qui nous disent, bon, c'est des romans qui nous disent que le monde est violent, mais finalement, qui me le font, alors, j'allais dire nous, mais moi, qui ne me le font pas du tout ressentir. J'aurais un besoin beaucoup plus fort d'une véritable violence. J'ai besoin d'un roman sale, en fait, quand je lis ça. J'ai besoin de quelque chose de dur et de sale.
C'est quand même un roman qui sent le bitume, le béton, enfin, qui
oui, mais là, une fois
c'est toujours
qu'on,
poisseux,
une
on
fois qu'on m'a
ce...
dit un tel est malheureux parce que, alors pour raison X ou Y factuelle, quoi. Bon, après, ça me fait pas dire pourquoi il est dur de vivre dans
ville,
ce monde-là.
La façon dont
quoi.
Elle la décrit, je trouve que là, il y a vraiment quelque chose.
Il y a une ambiance et il y a un brio dans la manière de mener le récit, ça c'est certain.
Bon, allez lire, écoute La ville tombée de Kate Tempest, il est sorti chez Rivage dans une traduction de Madeleine Nazalik. Et c'est bientôt l'heure de conclure cette émission, mais non sans avoir joué. Grégoire Difioré, vous nous rappelez d'abord la question d'hier et vous nous en donnez la réponse.
Dans quel arrondissement parisien se déroule le film Night and Day du réalisateur Hong Sang-soo? Et la réponse était le 14e arrondissement.
À gagner ce soir des invitations pour Saigon, un spectacle de Caroline Guéla Nguyen, mardi, 16 janvier à 19h30 à l'Odéon Atelier Berthier à Paris. Quelle est la question?
Par quel ingénieur français la poste centrale de Saigon a été conçue?
Si vous avez la réponse, vous pouvez l'envoyer ainsi que vos coordonnées postales à l'adresse suivante auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet www.franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. Aiguisez vos commentaires pour l'émission de demain, vous pouvez les poster sur la page Facebook de La Dispute dès maintenant ou attendre le direct pour commenter via le compte Twitter Dispute FC avec le hashtag La Dispute. Demain à 19h, La Dispute sera consacrée au cinéma, nous serons en direct et en public du bar de la Maison de la Radio Le Bel Air en compagnie de Muriel Joudet, Charlotte Garçon et Julien Gester. Il sera question du grand jeu d'Aaron Sorkin, de Seul sur la plage de Hong Sang-soo et de Si tu voyais son cœur de Joanne Chemla.